Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Bonsoir à tous. Elle était ministre sans interruption depuis 2012. Elle vient d'être débarquée du gouvernement à l'occasion du dernier remaniement et c'est la première fois depuis son départ qu'on a l'occasion de l'entendre longuement. Ce soir, nous recevons Marie-Lise Lebranchu, ex-ministre de la fonction publique et de l'aménagement du territoire. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vos presque 4 ans à l'intérieur de l'exécutif, la réforme explosive du Code du travail, la fracture dans la majorité, les doutes aussi sur la candidature de François Hollande. On va parler de tout ça avec Roselyne Fèvre, France 24, Laure Breton pour Libération. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Marie-Lise Lebranchu, maintenant vous avez retrouvé votre liberté de parole. Alors dites-nous, quand vous voyez la réforme du Code du travail, même si on sait qu'il va y avoir des aménagements et on va y revenir, quand vous voyez les grands équilibres de la loi El Khomri, est-ce que finalement vous n'êtes pas contente d'être sortie du gouvernement ?
Alors, contente, c'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas, libre de dire que... Moi, je pense qu'il y a une erreur de fond au départ, mais je l'ai toujours dit, y compris quand j'étais au gouvernement, c'est qu'on confond beaucoup travail et emploi. C'est-à-dire que l'emploi, c'est le nombre de personnes qui travaillent, et le travail, c'est les conditions de travail, la protection des salariés, la relation entre celui qui travaille et son patron ou ses équipes. Et souvent, on oublie de parler du travail. Et en fait, là, le code du travail, c'est plutôt on réforme l'aspect code emploi. C'est comment faire que les entrepreneurs embauchent plus facilement, c'est-à-dire en débauchant plus facilement. Et je pense que ça s'est mal passé parce que dès le début de l'arrivée de ce texte sur la place publique, on a parlé de 49.3. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de 49.3 quand le texte paraît équilibré, de gauche, faisant plaisir à sa majorité, etc. Et le fait d'avoir parlé de 49.3, d'abord, a fait reculer tout le monde.
Alors pour les auditeurs, rappelons le 49.3,
c'est ce qui permet... Alors le 49.3, c'est le passage en force.
Voilà, c'est ce qu'on appelle entre nous le passage en force. Donc aujourd'hui, quand on dit on va consulter les partenaires sociaux, on va organiser à la demande des députés d'un séminaire, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on aurait déjà dû faire depuis bien longtemps.
Je pense il y a eu ça au début. Alors pourquoi, je n'en sais rien. Je n'étais pas la ministre en charge. J'étais pas à côté de Myriam El Khomri. Mais c'est vrai que c'est mal parti. Et quand ça part mal, c'est toujours difficile. Et là, il y a besoin d'une négociation parce qu'on voit bien que les syndicats les plus réformistes, comme la CFDT, se sentent mal avec ce texte.
Plus que ça, parce que la CFDT avait posé un ultimatum au gouvernement.
Et donc sur des points que je comprends. Quand vous dites, par exemple, je vais plafonner les indemnisations aux prud'hommes... En cas de licenciement abusif. Les prud'hommes, c'est la justice. Moi, je suis une ancienne garde des Sceaux. Je me suis battue contre les peines planchers. Je me bats aussi contre les réparations plafonds. C'est-à-dire qu'il faut que le juge ait toujours une marge de manœuvre. Un licenciement, c'est une relation brisée entre deux personnes dans de mauvaises conditions. Donc, ça doit pouvoir être... peser, est-ce qu'il y a eu faute d'un côté, de l'autre, quel type de faute, quel type de préjudice, etc. Donc pour moi, c'est difficile d'admettre qu'il y ait un plafonnement de la réparation. Donc je pense que là-dessus, il faut qu'il y ait une discussion. Mais pas que sur ce point. Je pense que le périmètre des licenciements économiques inquiète. C'est vrai que c'est une loi qui porte sur les entreprises, j'ai envie de dire, classiques, qui peut-être ne porte pas assez de réponses. Et dans le débat, ça viendra parce que la ministre en était totalement convaincue sur le numérique, les auto-entrepreneurs, les nouvelles relations au travail, le fait qu'aujourd'hui, il y a plus de prestataires de services ou d'auto-entrepreneurs peut-être que de salariés dans certaines branches. Il y a beaucoup de fragilités qui ne sont pas traitées, qui devraient l'être. Et à côté de ça, sur le classique... Je pense que les personnes ont eu peur de ce plafonnement, par exemple, des indemnisations, peur de l'accord dans une petite entreprise quand il n'y a pas de syndicat. Quand la CFDT demande un mandatement, elle le demandait pour l'application des 35 heures, elle a raison de le demander. Il faut trouver quelqu'un qui puisse discuter.
Oui. Donc, dans le fond, vous venez de le dire, il y a deux points qui font peur. C'est bien sûr la définition du licenciement économique et les indemnités prud'homales. Si vous aviez été encore au gouvernement, on dit que Manuel Valls a reculé la discussion du texte parce que certains ministres l'auraient ouverte, entre guillemets, ces derniers jours.
Peut-être pas les ministres.
Est-ce que vous vous auriez, vous, fait entendre votre voix sur ces deux points particulièrement où...
Sans doute au moment du débat, mais j'ai l'impression, sinon la certitude, que le débat n'a pas eu lieu à l'intérieur du gouvernement. Alors peut-être le dernier jeudi où, malheureusement, pour la première fois, je n'ai pas pu, malheureusement ou heureusement, je ne sais, assister à la discussion. Mais la pression de l'extérieur était forte. Le Premier ministre n'a pas besoin simplement d'alerte de la part de ses ministres. Je dirais, il y a suffisamment de retours d'opinion, de retours syndicaux.
Oui, mais c'était multifactoriel. Enfin,
Effectivement, ça allait de soi que les choses étaient mal parties, puisque moi j'ai entendu deux fois parler de 49-3, c'est-à-dire de passage en force. Quand on entend deux fois, c'est que quelque chose qui ne fonctionne pas dans le débat démocratique et dans l'ouverture au Parlement.
Laure Breton. Mais ce que vous dites au fond, c'est que c'est un problème de forme ou c'est un problème de méthode sur ce texte?
Alors, c'est pas la forme rejoint toujours le fond, c'est-à-dire que si vous dites je passerai avec le 49-3, je passerai avec le 49-3, c'est que vous pensez qu'il y a des mesures qui ne seront pas acceptées ou acceptables en tout cas par votre majorité. Donc vous mettez vous-même en cause le lien que doit faire le parlementaire avec ses propres convictions, le parlementaire de la majorité. Donc je pense que dans ces cas-là, effectivement, vous allez dans le mur, si je peux me permettre cette expression, parce que vous dites vous-même à l'intérieur du gouvernement, ce texte ne va pas vous plaire, 2, il faudrait que vous le votiez, 3, si vous le votez pas, on passera en force. Je pense que c'est là que ça n'a pas fonctionné, et je le redis, les réactions des syndicats dits réformistes sont quand même assez fortes.
Donc, est-ce que ça dit quelque chose du lien ou de l'envie de réformer du président de la République et du Premier ministre? Est-ce qu'il y en a un qui est plus réformateur que l'autre? Est-ce que vous dites Manuel Valls a entraîné le président de la République sur un terrain qui n'était pas le sien? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites depuis le début, ils sont d'accord, le pacte de responsabilité, le CICE, toute la politique économique?
Je pense qu'ils sont d'accord. Moi, je l'ai vécu comme tel. C'est-à-dire, j'ai pas senti l'un qui poussait l'autre sur l'aspect code du travail.
Et est-ce que sur d'autres aspects c'est le cas? Parce que ça a été, c'est une question qui revient notamment depuis les deux débats qui ont fracturé la majorité. Enfin, le premier étant la déchéance de nationalité. Beaucoup de gens, y compris des proches du président, disent en quelque sorte que Manuel Valls serait le mauvais génie du président.
Bien sûr, ce point, je suis pas certaine. Moi, je dirais plutôt le contraire, parce que j'ai eu l'impression que Manuel Valls n'était pas du tout à l'aise, permettez-moi l'expression non appropriée, mais pas à l'aise dans la déchéance de nationalité dès le début, alors que c'est le président de la République qui l'annonce devant le Congrès. Moi, je comprends ce qui s'est produit parce que j'analyse mes propres réactions. Moi, au Congrès, en sortant, je n'ai pas réagi non plus. Vous voyez, on est trop près des attentats. Et je dis
à ce moment-là,
souvent,
ça vous choque pas, vous?
Mais personne, ça.
Non, je ne sens pas la pression monter tout de suite. Je me dis, je m'interroge, oui. Je me dis d'ailleurs en sentant que je vais relire le discours.
Mais le président ne dit pas qu'il veut modifier la Constitution,
non,
d'ailleurs.
Je
ce
ne
jour-là.
Sens pas. Je ne sens pas la pression. Je discute avec des gens qui disent c'est bien de remettre l'état d'urgence au carré une loi organique ou constitutionnelle. Bon, vous voyez, je ne sens pas ça. Et c'est petit à petit. On se dit, mais le droit du sol chez nous, c'est très important. Donc on sent venir, et puis en plus l'opposition entre deux catégories de Français. Mais je dis aussi que le président a vécu ce que je n'ai pas vécu. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire être dans les heures qui ont suivi sur les trottoirs avec des victimes par terre, du sang par terre, je veux dire quelque chose de profondément choquant. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'être protégée de ce type de surcharge émotionnelle. Et je peux comprendre que les réactions ne sont pas les mêmes. Et j'ajoute qu'en plus, François Hollande, qui analyse les choses, devait se dire, peut-être, je le crois, que la droite et l'extrême droite allaient venir tous les jours avec la déchéance de nationalité. Une espèce d'onde qui allait, j'ai pas trouvé d'autre expression que ces ondes comme sur un électrocardiogramme, les ondes T qui nous embêtent parce que c'est des ondes d'infarctus, mais vous voyez, qui viennent polluer un débat. Et il aurait pu se dire, en tout cas, je n'ai pas le droit de penser à sa place, mais il aurait pu se dire, oui, plutôt que de garder cette déchéance de nationalité qui va revenir comme une preuve de mon laxisme, je le mets sur la table et je le mets en débat.
Mais voilà. Mais la question qu'avait Laure Breton, il y a une différence entre mettre le sujet dans le débat, ce qui est plutôt le sens pour certains du discours de Versailles, et proposer une réforme constitutionnelle.
Voilà. Je pense que le mettre dans le débat, c'était en plus appeler tout le monde à ses responsabilités. Mais bon, honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas ce que va donner le vote au Sénat, je ne suis jamais de politique fiction, mais bon, je n'ai pas l'impression que ce sera un enthousiasme fou. Je pense qu'après le Sénat, il faut arrêter. C'est plus un débat populaire.
Non, Marie-Lise Legrand-Chu, votre suppléant a voté contre. Est-ce que vous-même, vous auriez voté contre?
J'ai toujours dit que la vérité en politique, c'est absolu. Et donc, j'aurais voté contre, puisqu'il m'a demandé. Et j'ai dit, tu votes contre, si en conscience, tu votes contre. Et je pense que parlementaire, j'aurais voté contre. Alors, c'est toujours difficile d'être son propre double aveugle. parce que, le vécu d'un ministre n'est pas le vécu d'un parlementaire. Mais je crois qu'il faut que ce soit derrière nous. Il faut clore le débat en disant, on n'a pas une majorité pour faire ça. Dont acte, et puis on passe à autre chose. Parce que moi, j'ai eu la chance, depuis que ma sortie au gouvernement, c'est extraordinaire, les gens viennent me parler. Ils parlent moins à un ministre qu'à un ministre qui est dehors. Et ils me parlent beaucoup. Ils me parlent de la gauche au pouvoir, ils me parlent du droit du travail, ils me parlent du chômage. Mais ils ne me parlent pas de la déchéance de nationalité. C'est plus un débat populaire, c'est plus un débat des citoyens. Et ça, je pense que c'est aussi un signe. Il faut arrêter, que le Sénat vote et qu'on arrête, quoi.
Roselyne Fèvre, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans cette gauche qui gouverne, cette gauche qui a un problème avec le réel? Dans le fond, il y avait ce livre de Bergugno et Grimbert qui s'appelait « L'ambition et le remords » sur l'histoire des socialistes, et que dans le fond, les socialistes ont du mal avec l'action gouvernementale, avec le réel, et pour eux, gouverner, c'est trahir. Est-ce que chez une partie des socialistes, et je pense en particulier à Martine Aubry, il y a cette espèce de syndrome?
Moi, je pense aujourd'hui. Pas. Je pense le contraire, j'ai toujours
fond,
dit ça.
Rien changé.
Ouais. Je pense le contraire. Je l'ai dit avant 2012, largement, les socialistes et les sociodémocrates européens, d'ailleurs, d'une façon globale, ont le syndrome de Stockholm avec l'économie. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur de ne pas en faire assez pour les entrepreneurs, pour l'économie, que parfois ils vont au-delà de ce qu'ils voudraient faire. Il y a une sorte de tentation néolibérale de tous les sociodémocrates au niveau européen, qui ne nous a pas permis, je pense, d'avancer sur ce que vous dites. Et juste, la confrontation entre nos convictions et le réel. C'est-à-dire, cette tentation néolibérale a été telle qu'au fond, on n'a pas continué à travailler suffisamment sur l'adaptation conviction réelle, qui est une nécessité absolue. On ne va pas reciter Jean Jaurès ici. Mais c'est vrai que du coup... parce que moi, je ne crois pas au pragmatisme. Je pense que le pragmatisme, c'est quand vous n'avez pas d'idée, vous êtes pragmatique. Quand vous n'avez pas d'idéologie, vous êtes pragmatique. Mais je pense à la confrontation des convictions et de la réalité. Oui, là, il y a des choses à travailler.
Alors, sur les débats au sein de la gauche, si on va revenir plus particulièrement sur le Code du travail, François Hollande disait ce matin qu'il comprenait qu'il y ait des interrogations, qu'elles étaient légitimes. Voilà ce qu'en pense, lui, le secrétaire d'État en relation avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen. Il était ce matin l'invité de France Inter.
Il y a aussi, à l'intérieur de la gauche, une compétition, pour prendre un mot qui soit le plus loyal possible, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc une compétition qui est aujourd'hui lancée avec des problématiques de primaire, des problématiques quelque part de mettre à mal l'action de François Hollande et de Manuel Valls. Je crois que chacun lit parfaitement, derrière l'agenda d'un certain nombre de personnalités ou d'organisations, une volonté de mener un combat politique. Combat contre son camp, ce qui est évidemment très problématique pour la gauche.
Alors, derrière cette contestation de la réforme du Code du travail, est-ce qu'il y a des arrière-pensées politiques, Marie-Lise Lebranchu, en d'autres termes, est-ce que débattre de la réforme du Code du travail, c'est, comme le dit Jean-Marie Le Guen, avoir la volonté d'affaiblir le président et le Premier ministre?
Alors, moi, je prends un contre-pied total de cette affirmation, même si Jean-Marie Le Guen est un très bon observateur, parce que je pense qu'au contraire, si on veut gagner 2017, il faut vraiment du débat, de l'échange, de la confrontation avec notre opinion publique. Moi, j'ai pas l'impression que notre opinion publique nous soutient très largement. Et c'est un euphémisme que de dire ça, sans doute.
En général, pas sur le Code du travail.
D'une manière générale. Oui. À chaque fois qu'on pourra débattre, qu'on pourra aller devant les citoyens et dire « voilà la question qu'on se pose », celle du chômage, bien évidemment. Voilà ce qu'on a déjà fait, le CICE, voilà ce qu'on pense faire, le Code du travail. À chaque fois qu'on ira en confrontation, on pourra gagner des points. À chaque fois qu'on leur dira « c'est comme ça, circuler, il n'y a rien à voir », on perdra des points. Moi, les gens que j'ai rencontrés, effectivement, là-dessus, c'est vrai, n'ont pas tout lu. Mais ont l'impression que Être moderne aujourd'hui pour la gauche au pouvoir, c'est reculer sur le progrès, reculer sur la protection, reculer sur les droits. Et ça, c'est tellement prégnant qu'il faut que nous fassions extrêmement attention. On peut progresser aujourd'hui. Et comment on progresse dans une société où, par exemple, le nombre d'emplois sera obéré par le numérique?
En débloquant la France, on est quand même un des quatre pays où il y a 10% en Europe de chômage. Comment on débloque les freins à l'emploi? Je veux dire, si on peut rien bouger, comment on débloque cette France? Parce que c'est terrible aussi le chômage.
On peut bouger à la marge sur le code de travail, mais je suis intimement convaincue que ce n'est pas le code du travail qui empêche la France d'avoir des emplois. Je pense qu'on a du retard, parce qu'à la fin du XXe siècle, on a choisi tous ensemble, et on est co-responsable de cette situation, on a choisi l'économie des services. On a fait une division internationale du travail, on a balancé, pardonnez-moi l'expression un peu vulgaire, la production industrielle en Allemagne et au-delà, et on a choisi l'économie des services. On a arrêté les grandes stratégies industrielles. Donc pour moi, tout ce qui est politique de l'offre, c'est-à-dire un retour de la stratégie industrielle, je pense que c'est ce qu'il faut faire, et il faut faire en urgence. Je ne suis pas convaincue, dans les PME que je visite, j'en ai visité encore une hier, qui est sur des marchés extrêmement pointus, le code du travail n'était pas du tout un problème. Le problème, c'était comment avoir des marchés en termes d'innovation, comment être soutenu par la BPI, etc. Vous voyez, on n'était pas du tout sur un problème de code du travail. Les chefs d'entreprise qui viennent me dire « je n'embauche pas parce que je ne pourrais pas licencier », honnêtement, j'en connais pas beaucoup. Dans les grands groupes, on sait faire des licenciements pas loin de moi. Je sais comment ça se passe. Je sais comment on ne perd pas grand-chose au prud'homme. Donc, je ne crois pas fondamentalement à cette idée qu'en se licenciant plus facilement, on embauchera plus facilement. Il y a tellement de CDD en France. Alors, peut-être qu'il faut bouger, et peut-être même bouger au-delà de ce texte sur les nouveaux rapports au travail, comme je disais
dialogue,
tout à l'heure. Dans le dialogue. Et je pense qu'on a un patronat qui est un patronat, je suis désolée pour le MEDEF, mais CNPF, quoi. Quand je les écoute...
Qui est l'ancêtre du MEDEF, pour les auditeurs.
L'ancêtre du MEDEF, quand je les écoute, quand je les lis, quand je relis, ce que j'ai eu le temps de faire ces trois derniers jours en particulier, je me dis, écoutez, qu'est-ce qui a changé depuis 25-30 ans, quoi. Il y a un vrai problème aussi de langage moderne d'un patronat qui pourrait proposer autre chose. Alors, on dit, oui, mais il y a eu Schröder, il y a eu Blair. Ça fait longtemps quand même.
Oui, il y a 20 ans. Il y a l'Italie maintenant, il y a Matteo Renzi.
Et j'ajoute que depuis, ces gens-là n'ont pas pu conduire leur famille politique au pouvoir. Elles ne sont jamais revenues au pouvoir. Donc il y a une vraie question d'appréciation. Est-ce que c'est vraiment le Job Act Intel qui a fait décoller un pays, ou est-ce que c'est sa stratégie industrielle, je pense à l'Allemagne en particulier, ou au nord de l'Italie? Ça, moi je n'ai lu personne qui soit capable de me démontrer que c'est le droit du travail qui leur a permis de décoller.
Marie-Lise Lebranchu, par exemple, le président reparlait de ce chiffre ce matin. Aujourd'hui en France, 13% des embauches se font sur un CDI. Ça signifie quoi?
Se font, pardonnez-moi?
Par CDI, par contrat à durée indéterminée. Tous les autres passent par un SAS plus ou moins important. Voilà.
D'où l'intérêt d'avoir une réforme.
Y a une question
d'où l'intérêt d'avoir cette réforme. Je pense que là, on n'est pas en train de jeter toute la réforme. On a parlé de deux points qui posent un problème majeur. C'est-à-dire le plafonnement des prud'hommes et puis...
Des indemnités. Licenciement économique.
Le périmètre
géographique du licenciement économique.
Donc, il y a des choses à faire. Le code du travail est trop compliqué. Il faut réécrire, il faut faire des choses plus simples, sans aucun doute. Et la numérisation, y compris des dispositions du code du travail, doit nous y aider. Mais quand je regarde, par exemple, les petites entreprises, qu'est-ce qu'elles me demandent en creux? Donnez-nous l'autorisation de licencier, et puis après, on sera tranquille. Et il y a un vieux regret. L'autorisation administrative du licenciement dans les toutes petites boîtes, c'est un vieux regret, parce qu'il n'y avait pas de prud'homme derrière, parce qu'on pouvait aller discuter avant de savoir si on pouvait licencier ou pas.
Autorisation administrative supprimée par la gauche.
Voilà. Donc le souci aujourd'hui, sans doute, c'est celui du mandatement
pour les syndicats.
Par bassin d'emploi.
Voilà. On va peut-être en reparler dans cette deuxième partie, mais là, la première partie de Mardi Politique s'achève. On se retrouve avec l'ex-ministre Marie-Lise Lebranchu, surtout pour parler du PS et de la gauche dans tous ces états. Ça sera après les informations.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Mardi politique, deuxième partie, au menu l'extension du domaine de la Fronde socialiste à 13 mois de la fin du mandat de François Hollande. Gauche déboussolée, socialiste divisée, fracturée. On en parle avec notre invitée Marie-Lise Lebranchu, ex-ministre des gouvernements Hérault et Valls, avec Roselyne Fèvre, France 24, Laure Breton, Libération. Marie-Lise Lebranchu, la semaine dernière, vous avez partagé sur le réseau social Twitter la tribune jugée souvent très sévère de Martine Aubry sur la politique menée ces deux dernières années, disons. Est-ce que vous en partagez le constat, tout le constat ?
Sans doute pas tout le constat et pas le ton, parce que moi j'ai un délai de décence, j'étais dans ce gouvernement, donc je suis co-responsable de ce qui s'est produit, sinon il fallait que je parte. Donc je n'aurais pas écrit les choses comme elles ont été écrites. Sur un certain nombre de points, moi je suis assez d'accord sur le fait qu'il y ait, d'ailleurs Manuel Valls, même si le ton l'a sans doute encore plus choqué que le fond, sur le CICE et le fait qu'il faut regarder quel est le résultat et comment on peut faire fonctionner davantage, je pense qu'il partage
cette idée. Crédit impôt, compétitivité pour les entreprises.
En disant, bon, il y a eu beaucoup d'aides aux entreprises et pas beaucoup d'aides à l'emploi. Le ton de Martine était dur. Est-ce que c'est calculé ? Non. Martine a toujours parlé de façon claire, nette et précise. Elle n'aime pas circonvolutionner, tourner autour du pont.
Oui, mais est-ce que c'est plutôt l'expression d'une haine intacte vis-à-vis de François Hollande ou l'expression... d'une conviction.
Non, c'est pas
l'expression d'une.
Il n'y a pas de haine chez Martine Aubry. Preuve en est, moi j'ai vécu toujours le soir de la primaire où il faut s'engager derrière François Hollande. Ça dure pas deux minutes. L'engagement de Martine Aubry, il est entier. Elle veut que la gauche gagne. Et elle, ce qui l'effraie le plus, et je la connais suffisamment pour pouvoir le dire, c'est qu'en 2017, aujourd'hui, on puisse perdre. Et perdre gravement. Et donc ça l'effraie. Elle n'a aucune ambition personnelle. Elle n'a jamais eu de ce type-là. Donc non.
Qu'est-ce que vous partagez dans son constat ?
Je pense qu'il faut... sans doute ce qui nous a manqué, et je me mets dedans parce que j'étais dans ce gouvernement, on a débattu avec qui au fond. En juillet 2015, il y a eu le Parti Socialiste dont son écrasante majorité a voté un texte. Moi j'étais concernée sur les collectivités territoriales, sur le CICE, sur un certain nombre de mesures. Il disait il faut donc revoir le CICE.
Lors du congrès de Poitiers.
Etc. Il y a un texte important qui est voté. Est-ce qu'on en a suffisamment tenu compte ? Est-ce qu'on en a débattu suffisamment ? Je ne crois pas. Je pense qu'on a continué à rouler en se disant « Bon, allez, ils vont nous suivre. » J'ai cette impression.
Donc, elle a raison, Martine Aubry, quand elle tire les conséquences, en quelque sorte, en partant de la direction du parti.
Je ne suis pas du premier cercle, ni de François Hollande, ni de Manuel Valls. Mais je pense qu'à un moment donné, après tout, elle a provoqué un choc. Et je pense que non pas le recul, mais les deux semaines supplémentaires de discussion apaisent le groupe parlementaire. Il faut qu'on arrive à retrouver de la sérénité dans le débat politique. On ne l'avait plus. Bon, c'est pas. Elle tape fort, peut-être les uns et les autres pensent trop fort, ok. Mais en tout cas, on en parle. Je sais qu'il y a discussion en groupe, il y a discussion encore demain. Il faut qu'on retrouve de la sérénité parce que la gauche aujourd'hui. Ne raisonne pas dans le pays, au sens de raisonner, c'est-à-dire faire à la fois un bon raisonnement et faire bruit au niveau de nos citoyens. Donc, il y a quelque chose d'important pour nous, c'est de retrouver nos citoyens. Je pense que c'est plutôt bien qu'il y ait eu ce choc-là, et maintenant, on va en tirer les conséquences, sans rester dans l'affrontement ou la haine. Ce que détestent le plus les citoyens français, c'est justement les sentiments personnels des uns par rapport aux autres. On n'est pas obligé d'être amis avec les gens d'un gouvernement. C'est pas l'amitié, c'est le partage des convictions. On dîne pas ensemble, on part pas en vacances ensemble. On partage des convictions. Or, est-ce qu'on est certain qu'on discutait de ce partage de convictions ? Je ne suis pas certaine aujourd'hui qu'on l'ait fait.
La gauche, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Oui. Manuel Valls dit qu'il y a deux gauches et il dit que ces deux gauches sont désormais irréconciliables. Vous ne partagez pas vraiment
si Non, parce que j'ai vécu ça. Alors, j'ai la chance d'avoir une histoire. Je me souviens de la deuxième gauche, moi aussi, à un moment donné, d'avoir été rocardienne, montrée du doigt par les Mitterrandistes comme étant d'horribles libéraux, etc., prenant en compte l'entreprise. Donc, j'ai connu ça. J'ai connu des débats de cette même violence. Et puis, la réconciliation qui se fait autour de le pays a besoin de nous. Et le pays a besoin de quoi ? il y a besoin qu'on se réunisse, qu'on fasse parti politique, etc. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, je crois peut-être, c'est que on est en train de se replier sur notre hexagone. Vous voyez, la gauche française. On se replie sur nous. On n'est pas assez européen. On se pose pas assez la question de ce qu'on fait en Europe avec les autres sociaux-démocrates. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que les citoyens qui aujourd'hui sont agacés par le code du travail ou autres sujets rejettent en même temps l'Europe. Attention, je pense que à force de nous focaliser sur quelques mesures qui ont pu poser débat, le code du travail en est une, le CICE en était une autre, la déchéance de nationalité, est-ce qu'on n'est pas en train de louper une marche qui est que le jardin des plus jeunes, c'est l'Europe, c'est le monde. Qu'est-ce qu'on fait, nous, la gauche française, pour prendre langue avec les sociaux-démocrates européens au lieu de passer un temps fou sur nos petits sujets.
Et vous parlez de citoyens agacés par le code du travail. Le sentiment qu'on a plutôt au bout de 4 ans de gauche au pouvoir, c'est que non seulement François Hollande est impopulaire, mais le socle politique de la gauche s'est totalement érodé, et y compris les fonctionnaires dont vous avez été ministre.
Oui, et pourtant, je me suis battue pour eux. En augmentant les catégories C, j'étais en débat à la CGT tout à l'heure pour dire à quel point je crois à ce statut et au fait que ouvrir tous les services au privé, ça n'a pas de sens et ça n'a aucun intérêt pour un pays. Bref. Mais je crois que on s'étrique. C'est ça mon souci.
Mais est-ce que vous en avez fait assez, vous, dans la réforme de l'État? Vous avez passé 4 ans. Quel est
peut-être
votre bilan?
Peut-être pas assez. Moi, j'estime jamais d'en avoir fait assez, d'abord. Hein. On n'en fait jamais assez.
Mais sur la réforme de l'État, qu'est-ce qu'on
mais
peut
si,
tenir,
oui, hein, parce que je vous parlais en amont de cette émission des SMS que je reçois, mais une RH d'un grand groupe me disait ce qu'on a fait depuis 3 ans, c'est qu'on se voyait tous les 3 mois entre les RH publics et RH privés pour voir comment on pouvait avancer ensemble, faire des passerelles, etc. On a fait un grand boulot, mais sans doute on l'a fait à bas bruit, parce que ça intéresse pas trop les médias, je suis désolée, hein, mais c'est un peu ça. Donc la RH État, voir comment on retrouve ce qui est vraiment le sens de l'État par rapport à ce qui doit être confié à d'autres, c'est-à-dire au marché. On a fait un vrai travail de fond, mais on n'est pas allé suffisamment au bout. Peut-être qu'on n'a pas.
Au fond, tout à l'heure, quand Roselyne vous posait la question de est-ce qu'il y avait un problème d'adaptation au réel, est-ce que les socialistes avaient vraiment envie de gouverner, vous dites aussi que les socialistes n'ont pas envie de raconter leur action et que c'est peut-être ça qui vous a desservi.
C'est
en tout cas, c'est la communication, c'est mal. Donc on pense que le bilan va suffire. Pardon.
Mais on est peut-être tous victimes de notre starisation. C'est-à-dire que comment devenir une star dans ce pays? Ben il faut, si on est à gauche, il faut parler des 3 tabous de la gauche, les 35 heures, les fonctionnaires, et puis hop, on fait les premières de couverture.
Si on est à droite, Emmanuel Macron, là.
Si on est, non mais pas seulement. si on est à droite, il faut dire le contraire. Donc vous voyez, il y a souvent aussi ce défaut. Que j'espère ne pas avoir, mais on est tous tentés par ça, de la recherche de notoriété. Et la notoriété, c'est pas comme ça qu'il faut aller la chercher. C'est en disant, c'est quoi la société demain? Quand on parle d'éducation nationale, le gosse, il a 7 ans, on est en train de parler de son éducation. Quand il va avoir 27 ans, ce sera quoi l'économie de demain? Qu'est-ce que je lui dois à cet enfant aujourd'hui? Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est renouer avec la politique en disant, il y a un chemin, il y a une société.
Donc plus de collectifs.
Plus de
perspectives, moins de communication.
Et plus d'Europe.
Mais on vous a beaucoup voulu sur le fameux jour de carence.
Ouais, alors là, c'est n'importe quoi, si je peux me permettre. Le jour de carence, il y a un symbole, c'est populiste, c'est un tract. Les fonctionnaires auront ça en moins. Et puis, il y a le deuxième corollaire. Financièrement, le jour de carence, ça coûte plus cher parce qu'il faut prendre de la protection sociale et que dans les grands groupes, y compris peut-être vous,
oui, ça crée
vous avez
d'absentéisme.
Entre 8 et 12 euros par mois, ça coûte ça à vos patrons de supprimer le jour de carence. Bref, c'est devenu un tract. Alors que, est-ce que la fonction publique doit avoir un statut? Est-ce que c'est elle qui porte l'impartialité, la loyauté, la laïcité, la lutte contre les conflits d'intérêts? C'est elle qui porte l'éthique en politique? Oui. Est-ce que les lanceurs d'alerte doivent être protégés? Oui, ça c'est important. C'est la loi qui est actuellement discutée. Je pense que c'est plus important qu'un jour de carence qui réduit un tract politique.
Vous disiez plus de collectif, plus de communication, plus de sens à l'action. Je ne sais pas si vous jugez que c'est ça qui manque à François Hollande. En tout cas, il y a un doute aujourd'hui sur sa potentielle candidature à la présidentielle. Est-ce que vous en avez, vous avez discuté au sein du gouvernement, dans la majorité? Est-ce que vous le ressentez, ce doute? Est-ce que forcément il va se représenter pour vous?
Moi, je dis que encore aujourd'hui, il est le sortant qui doit se représenter. Je dis encore ça
candidat
aujourd'hui.
Candidat légitime et naturel.
Oui. Moi, je pense qu'une primaire, quand on a un président de la République, je vois pas du tout comment on le fait. Donc, comme quand je ne vois pas, je ne propose pas, quand je sais pas comment on va faire. En revanche, prenons ce que je disais tout à l'heure sur l'Europe. François Hollande, moi j'ai fait beaucoup de déplacements à l'étranger, a fait énormément de travail sur l'international et sur l'Europe. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas convaincu que c'est de cela qu'il faut qu'il parle.
Parce qu'en général, c'est pas ça qui fait déplacer des voix aux élections.
Peut-être qu'on sous-estime nos concitoyens. Nos concitoyens savent aujourd'hui que l'économie d'un pays ne dépend pas que du pays. Et que l'Europe, dans le monde, que la guerre, que les conflits, qu'un monde plus serein, plus équilibré, sera plus favorable à l'emploi, y compris dans leur pays.
Un discours plus...
Il faut un discours plus large, parce que les citoyens, eux, tous les jours, regardent à la télévision, écoutent les radios ou lisent les journaux et entendent parler des conflits et du rôle de la France. Qu'est-ce que la France peut apporter pour que le monde soit plus équilibré? Parce que quand vous discutez un peu longuement avec eux, ils ont peur. Ils ont peur du monde actuel. Pas peur seulement de l'emploi, mais peur du conflit qui se rapproche de nos frontières, peur de la fragmentation de la société, peur d'un conflit intra-européen. Donc il y a un moment où le président, il faut qu'il monte les marches et qu'il remonte les marches, pas seulement sur le prix du lait, même si c'est très important et il faut s'en occuper, mais aussi sur un avenir d'un citoyen français qui est aussi européen et dans le monde. Et le repli que provoque, y compris le Front National et toute forme de populisme, le repli sur l'Hexagone, le rejet européen, le rejet du monde, le rejet de l'autre, c'est quand même ça qui nous guette. Et si c'est ça qui nous guette, alors le pays est en danger. Et je pense que le président de la République doit... d'urgence.
Mais ça, vous le voyez bien, c'est pas un problème français. L'Europe se barricade, l'Europe se ferme, on veut plus des réfugiés.
Alors? Et alors?
Oui. Mais aux États-Unis, il y a Trump qui tutoie, là, les...
Alors justement, battons-nous. Mais
la primaire, oui.
Battons-nous. Est-ce qu'on peut dire, c'est un constat, donc tant pis, c'est partout pareil. Non, c'est pas parce que c'est partout pareil qu'il faut pas se battre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une bagarre fondamentale à conduire contre ce repli-là qui est en train de devenir dangereux. Et je pèse mes mots.
Il y a des choses à changer, vous disiez, sur la manière dont François Hollande parle de son mandat. Est-ce qu'il y a des choses à changer au sein des partis politiques
Oui.
Le PS, par exemple, ses militants désertent. Jean-Christophe Cambadélis a voulu le dépasser. On ne sait pas très bien ce qui va devenir de la Belle Alliance. Si on regarde tout simplement la mobilisation sur la réforme du Code du travail... Parmi les éléments qui ont fait basculer les choses, c'est cette pétition, 850 000 signatures aujourd'hui, directement signée sur Internet. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut modifier les formes de l'engagement citoyen et politique aujourd'hui?
Oui, parce qu'il y a une crise économique, mais il y a une crise politique et une crise sociale. Je sors d'un syndicat, il n'y a plus de syndiqués non plus, suffisamment. Il n'y a plus de gens qui adhèrent à un parti politique. Les débats sont étriqués dans les partis politiques et très, très ouverts sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, les partis politiques doivent se repenser, comme disait d'ailleurs Martine Aubry, pour la citer à nouveau, mais sur un autre registre, comme une ONG, organisation non gouvernementale. Le parti n'est pas là pour coller au gouvernement et porter les valises, pardonnez-moi, du gouvernement. Il est là pour alimenter un débat, une envie d'être sur des territoires, d'agir sur des territoires, d'être élu dans une commune, de se battre dans un quartier, c'est-à-dire retrouver langue avec les citoyens et retrouver la politique locale et pas seulement se révolter contre une évolution du Code du travail. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous manque aujourd'hui, c'est peut-être le fait que s'engager, c'est aussi agir. C'est pas seulement signer une pétition.
Mais sur le dialogue social, par exemple, comment on peut faire avancer les choses en France? Comment on peut reprendre ce dialogue social? Il y a quelques idées, par exemple, que certains pays, je crois que Ségolène Royal l'avait proposé, le syndicat obligatoire quand on entre dans une entreprise.
Le chèque syndical.
Oh, oui. Le chèque syndical, c'était une des propositions. Ouais. Alors, il y avait Ségolène, Martine, d'autres encore, toutes ces femmes qui ont essayé de secouer les partis politiques.
Obligatoire.
Mais je crois qu'il peut-être il faut que ce soit déductible, je sais pas, il faut faire un geste. Mais en tout cas, la syndicalisation est absolument nécessaire, sinon le dialogue social est conduit par des personnes qui n'ont pas assez d'adhérents. Je discutais avec une jeune femme qui me disait, mais au fond, moi, je ne les connais pas. Oui, je ne les connais pas.
Les syndicats?
Les syndicats, je ne les connais pas. Vous travaillez depuis combien de temps? Depuis 20 ans, et je ne les connais pas dans ma boîte. Donc il y a un vrai souci de syndicalisation. Il y a aussi une modernisation des pratiques des partis politiques, mais aussi des syndicats, mais aussi du MEDEF. On voit bien, moi j'ai rencontré quelques entrepreneurs, puis j'en rencontre souvent, et je leur dis, mais vous êtes au MEDEF? Ils me disent non. Ah ben si, peut-être, parce que j'ai une adhésion. Oui, il n'y a pas cette recherche du collectif qui discute, qui réfléchit, qui avance. Moi, je vais rassembler des parlementaires, je vais essayer de travailler à nouveau avec des experts, avec des gens qui savent, avec des gens qu'on rencontre pas assez, pour voir comment on rediscute de
vous créez
de tout
un parti, Marie-Lise Lebranchu?
Bon, non, pas un parti, parce que je pense que le mien n'est pas mort du tout, contrairement à d'autres.
Il est mal
mais,
en point, hein, quand même.
Mais que peut-être un courant, comme on dit maintenant, mais rassembler des gens autour de constats, mais aussi perspectives. Je crois qu'on a besoin d'experts, on a besoin d'intellectuels. Tout ça est éparpillé maintenant. On a l'impression qu'il y a les parlementaires d'un côté, le gouvernement, les intellectuels, les journalistes, mais qu'il n'y a pas de recherche collective. Et là, la recherche collective, moi, j'y tiens.
On approche de la fin de cette émission. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de Myriam El-Khomri. Le président s'est exprimé ce matin sur la réforme du ministre du Travail. C'est Manuel Valls qui a annoncé le report de la réforme hier. Et est-ce qu'en creux, ça ne traduirait pas aussi une forme de faiblesse de la ministre? Vous l'avez côtoyée au gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'elle aura suffisamment de poids politique pour affronter les débats sur le code du travail?
Bien sûr que oui. Moi, j'ai bien aimé sa nomination parce que c'est une fille qui est authentique, naturelle, et qui a un vrai charisme avec les personnes. Bon, c'est très lourd, le ministère du Travail. C'est très lourd. Et c'est vrai qu'elle y est il y a peu de temps. Et elle se retrouve avec une réforme lourde à porter. C'est très lourd. Donc ce qu'il faut, c'est lui donner un coup de main. Moi, je pense qu'il n'y a pas...
Elle est un peu jeune pour le job.
Il n'y a pas des faibles et des forts.
Un peu jeune pour le job.
L'expérience est peut-être nécessaire. Je n'ai pas été ministre du Travail, mais je sais que c'est un ministère très lourd.
En tout cas, passer de secrétaire d'État à ministre du Travail avec une réforme emblématique.
C'est dur. Et moi, je pense que tout le gouvernement... Je n'en suis plus, mais que j'irai l'aider s'il faut. Mais que... Tout le gouvernement doit la porter, la supporter, parce que c'est pas simple de porter.
Faut dire
un projet
ça à votre amie Martine Aubry.
Mais elle n'est pas au gouvernement, que je sache.
Non, mais enfin, elle n'est pas très solidaire. On a senti un peu de mépris envers ce projet dit El Khomri de cette jeune ministre. Enfin,
je crois que si on a une qui sait ce que c'est que d'être critiquée à longueur de temps et à longueur de journée, c'est Martine Aubry. Donc elle en a pris tellement plein sa figure que voilà. Mais elle critique un projet, elle critique pas la personne. Mais c'est vrai que d'abord, moi, je me bats pour qu'on n'appelle pas les lois du nom des ministres. Parce qu'une loi, elle est portée par un collectif. Elle n'est pas portée par une personne toute seule. Enfin, et j'aimerais bien que chacun s'en souvienne.
Vous n'inquiétez pas, les frondeurs l'ont rebaptisé la loi Valls.
Oui, justement, j'allais dire, est-ce que vous direz aux députés socialistes que vous allez retrouver bientôt que rebaptiser la loi Valls, cette loi El Khomri, n'est pas forcément rendre service à les ministres du Travail?
Non, moi je pense qu'il faut l'utiliser, il faut rechercher une meilleure expression, paraît-il, que celle qu'elle avait et qui m'échappe à l'instant. Mais c'est une réforme du code du travail.
Protection des salariés et liberté des entreprises ou des entrepreneurs.
Et à force d'ailleurs de se triturer l'esprit pour trouver des noms à des lois, je pense qu'on aurait dit simplement réforme et modernisation du code du travail, ça m'aurait suffi. Donc je crois qu'il faut revenir à cette idée de collectif. Et la question peut-être, c'est que cette loi n'a pas été assez porté collectivement. Il y a très peu de temps que Myriam est là et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de la porter tous ensemble, cette loi, ni de la discuter. Et que ce qui se passe aujourd'hui, au fond, c'est que le débat reprend. Et ça, c'est une bonne idée de faire reprendre le débat.
On arrive à la dernière séquence de cette émission. Des questions courtes et des réponses courtes. Je lisais qu'enfant, on vous appelait, vous surnommait plus exactement, tout va s'arranger. Ouais. Est-ce que c'est un surnom que vous porteriez aussi aujourd'hui ou qu'on vous donne toujours?
Absolument.
Vous êtes si optimiste que ça?
Je range bien et je ferme les tiroirs des désagréments et des aigreurs parce que ça pourrit la vie, ça abîme le raisonnement aussi. Donc je crois qu'il faut ranger les aigreurs et...
Alors justement, à ce propos, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu Flore Pellerin se plaindre d'avoir été éjectée du gouvernement. Et vous, dans le fond, on a l'impression qu'en vieille routière, vous dites, voilà, c'est comme ça. Vous n'en avez pas plus fait des grèves. On connaît que François Hollande vous ait appelé en disant, faut faire de la place, Jean-Michel Baylet. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est la réponse. Vous l'avez dit quoi?
Ok, point.
Ok, point.
C'est, tout c'est ce une réponse courte, en tout cas.
Vous n'avez pas défendu votre bout de grain.
Plus. J'allais dire le pauvre. Non. Que voulez-vous que je lui dise?
Vous avez dit ok, okay, et vous avez raccroché.
Ben voilà. Et j'ai vite
vous
avez
fait... Vous n'avez pas
des...
argumenté.
Pardon?
Vous n'avez pas argumenté en disant...
Non,
mais...
non, non. Quand un président de la République vous appelle pour vous dire, voilà, j'ai pensé que, c'est pas la peine, non. C'est...
En fait,
s'il a pensé ça, et il a... de toute façon, il a sans doute eu raison, parce que le président a toujours raison.
Non,
je souris.
Vous allez retrouver l'Assemblée nationale et donc redevenir député. Où est-ce que vous serez pendant la campagne présidentielle en 2017? Est-ce que vous envisagez d'être de nouveau député en juin 2017?
Non. Non, non, j'ai déjà dit, je suis en campagne électorale pour mon suppléant. Il y a un moment donné, il faut savoir passer la main. Et moi, j'ai un suppléant qui a été donc député pendant presque 4 ans. Et il a fait un remarquable boulot. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Ça ne veut pas dire que moi, je m'arrêterai de faire de la politique. Ça, ça ne va pas être possible. Je ne crois pas.
Pour parler de Bretagne, toujours, Jean-Yves Le Drian cumule le ministère de la Défense, la présidence de la région. Est-ce que vous comprenez ce choix?
Je pense qu'il n'a pas le choix. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit avoir hâte d'être président de région, mais il n'a pas le choix.
Vous avez le temps maintenant de regarder la télévision. Est-ce que vous avez vu cette fameuse série qui fait un tabac sur Canal+, Baron Noir, sur les secrets de la politique pourrie et
Non, j'ai pas vu parce que...
Bon, je vais passer à autre chose alors. On dit que François...
Les secrets de la politique pourrie, ça va pas trop m'intéresser.
D'accord, mais pourtant il paraît que c'est la réalité. Bref,
vous avez votre dose.
François Hollande est un mystère psychologiquement pour beaucoup, mais on dit que les femmes y comprennent un peu plus en psychologie. Vous le cernez comment? Comment vous, maintenant vous avez retrouvé votre liberté de parole, vous dites François Hollande, comment il est filandreux, il est...
Non, d'autres disent c'est quelqu'un qui sait où il va et il y va vraiment. C'est
parce qu'on dit le contraire. Enfin, les observateurs disent on ne sait pas où il va.
Moi, je suis persuadée que le contraire.
D'accord.
Je suis persuadée du contraire. Il ne révèle pas où il veut aller. Donc il écoute beaucoup, il ne révèle pas, mais c'est quelqu'un qui sait où il va et qui sait et qui prend ses décisions de façon ferme. Voilà.
Avec jamais le sentiment.
C'est pas l'homme rond qu'on imagine là. Non, pas du tout. C'est quelqu'un de très déterminé.
C'est un tueur?
Peut-être.
Quelqu'un un jour a dit c'est un homme carré dans un corps rond.
C'est possible ça. Ça c'est une jolie phrase. Mais le corps n'est plus très rond parce qu'il avait quand même beaucoup maigri. Mais honnêtement, je pense que c'est vraiment quelqu'un de très fort. Il est très fort en termes de personnalité. Et d'ailleurs, il est fort parce qu'il passe à travers les gouttes. Mmh. Et il résiste.
Alors pas. Oui.
Mais c'est un résistant.
Non
mais
pas sur la pluie. Non, c'était la
non mais il est résistant. C'est un résistant et c'est un résistant aux choses.
Il y a de l'affect. Il y a pas d'affect. Parfois on a l'impression que tout lui glisse dessus.
Il y en a pas. Il y en a peut-être pas beaucoup d'affect. Et je pense qu'il se l'interdit.
Vous avez parlé de ces 4 années que vous avez passées ministre au sein du gouvernement. Quel est votre meilleur souvenir de ces 4 années? Qui viennent de s'écouler.
Mon meilleur souvenir du gouvernement.
De votre action de ministre ou de ce qui vient de se passer. Ça peut être hors politique. Hein.
Hors politique. Non, hors politique, ce serait vraiment privé. Mais je pense que les catégories C fonctionnaires et d'avoir obtenu ce protocole, même s'il n'y a pas eu 100% tout sur toutes les branches, hein, juste à l'État. Et la réforme qui est en train de se faire à Mabrouille, oui, c'est une fierté. Et puis d'avoir conduit au bout la réforme des collectivités territoriales, le jour où ça a été voté quand même, là, je peux vous dire que j'étais assez contente parce que ça n'a pas été simple.
Eh bien, on va finir cette émission sur une note positive. C'est la fin de Mardi Politique. Merci à vous, Marie-Lise Leroy-Branchu. Je rappelle que vous êtes ex-ministre et que vous êtes bientôt de retour sur les bancs de l'Assemblée. Merci à nos partenaires Libération et France 24 et à Mathias Golchani pour la réalisation de cette émission.
Sur l'actualité.